l'écologie et les serpents.
Sur Radio B, les bonnes ondes.
Bonjour et bienvenue sur Radio B. Je m'appelle Raphaël.
Et moi Frédéric.
Et moi Paul.
Et moi Anne-Mama.
Aujourd'hui, on part à la découverte de la mythologie et des serpents.
Des histoires légendaires et des créatures fascinantes vous attendent.
Alors installez-vous bien.
C'est parti!
Radio Carnot!
On commence avec un quiz.
Êtes-vous prêt à tester vos connaissances sur la mythologie grecque?
Allez, écoutez bien et essayez de répondre.
Ne viens pas, tête à les vents, gémir ici à mes pieds. Tu m'es de plus odieux de tous les immortels qui habitent l'Olympe. Ton plaisir toujours, c'est la querelle, la guerre et les combats.
Frédéric, t'es tombé sur la tête?
Mais non, je citais Zeus. Il s'adresse ici à son fils Arès.
Zeus? Arès? De quoi tu nous parles?
Bah, des dieux grecs, Paul. C'est le thème de notre quiz aujourd'hui.
Ah oui, c'est vrai. D'ailleurs, quelle est la première question?
Dans la mythologie grecque, quelle est la divinité de la guerre? Réponse A, Arès. Réponse B, Hadès. Réponse C, Athéna. Réponse D, Déméter.
On commence ce quiz avec un piège.
Arès et Athéna sont tous les deux des dieux de la guerre, que l'on oppose souvent.
L'un est le dieu de la sagesse et de la stratégie militaire, l'autre est le dieu de la guerre brute et de la violence.
Entre Arès et Athéna, savez-vous qui est le dieu de la sagesse et qui est le dieu de la violence? Arès est le dieu de la guerre brute et de la violence. Arès incarne les aspects destructeurs et les chaotiques du conflit. Fils de dieu Héra, on dit souvent qu'il est mal aimé des autres dieux à cause de son côté belliqueux.
Athéna est l'une des déesses les plus respectées de la mythologie grecque. Fille de Zeus, elle est sortie toute armée de sa tête après qu'il ait avalé sa mère Métis. En plus d'être la déesse de la sagesse, elle est aussi celle de la stratégie en guerre.
Merci Anaëlle et Frédéric pour ces explications.
Tu as d'autres questions à nous poser, Frédéric?
Je suis maître de l'Olympe. Et le roi des dieux. Je rends la justice parmi les divinités et les hommes. Qui suis-je? Zeus, c'est le dieu suprême dans la mythologie grecque. En plus de rendre justice, il est aussi le dieu du ciel et du tonnerre. Ses principaux attributs sont la foudre, qu'il utilise pour exprimer sa colère ou sa puissance, et l'aigle, symbole de son règne. Zeus a joué un rôle crucial dans de nombreuses histoires mythologiques, notamment en affrontant les titans pour prendre le pouvoir.
Bravo, tu as une dernière question?
Parmi ces trois déclarations concernant Héra et Aphrodite, laquelle est vraie? Réponse A, Héra et Aphrodite sont toutes les deux la déesse du mariage. Réponse B, Héra et Aphrodite sont toutes les deux la déesse de la beauté. Réponse C, Héra et Aphrodite représentent toutes les deux la fécondité. Héra, épouse de Zeus, est la déesse du mariage, tandis qu'Aphrodite est la déesse de l'amour et de la beauté. Si le mariage est spécifiquement lié à Héra et la beauté à Aphrodite, elles partagent toutes les deux le rôle de symbole de la fécondité, bien que dans des contextes différents. Héra dans le cadre du mariage et de la famille, et Aphrodite dans le cadre des relations amoureuses.
Merci Frédéric, c'est au tour de Raphaël.
Je suis le dieu de l'eau et le frère de Zeus et Hadès. Qui suis-je? Poséidon, c'est le dieu des mers, des tremblements de terre et des chevaux. Son symbole le plus connu est le trident. On le représente souvent en train de chevaucher des créatures marines. Poséidon joue un rôle central dans de nombreuses légendes, notamment dans l'Odyssée, où il rend le voyage d'Ulysse très difficile. Quelle créature garde l'entrée des enfers? Réponse A, le Cerbère. Réponse B, le Sphinx. Réponse C, le Minotaure. C'est le Cerbère, ce chien monstrueux à trois têtes garde l'entrée des enfers sous le règne d'Hadès. Il empêche les âmes de quitter le royaume des morts. Il est souvent décrit comme une créature redoutable, mais dans certaines histoires, des héros comme Héraclès parviennent à le piéger et même à le capturer.
Merci pour ces infos, Raphaël. Anaël, il te reste aussi une question.
Si je vous dis Lyre et Laurier, à quel dieu pensez-vous?
À Apollon, fils de Dieu et frère d'Artémis. Il est le dieu de la lumière, de la musique et des arts. Son symbole, la lyre, représente son lien avec la musique et la poésie. Le laurier est lié à son amour pour la lymphe Daphné, qui, après la légende, s'est changée en laurier pour lui échapper.
Merci Anaël, on termine ce quiz avec Paul.
Parmi ses espoins, lequel n'a pas été réalisé par Dédale? Réponse A. Construire le labyrinthe du Minotaure. Réponse B. Fabriquer des ailes à taille humaine. Réponse C. Bâtir des statues qui marchent. Et réponse D. Participer à l'expédition des Argonautes. C'est la réponse D. Dédale n'a pas participé à l'expédition des Argonautes. Célèbre inventeur, il est surtout connu pour avoir construit le labyrinthe du Minotaure en Crète et pour avoir fabriqué des ailes en plumes pour lui et son fils Icare afin de s'envoler. Ces statues étaient si réalistes qu'on disait qu'il fallait les attacher pour qu'elles ne s'enfuient pas. Cependant, il n'a jamais pris part à l'expédition des Argonautes où Chazon et ses compagnons sont partis à la recherche de la Toison d'Or pour récupérer le trône royal.
Merci Paul pour toutes ces précisions.
C'est la fin de notre quiz. Merci à toutes et à tous pour votre participation. Nous espérons que vous avez appris des choses.
La mythologie est pleine de créatures passionnantes et d'exploits.
On écoute tout de suite les plus connus.
Citez-moi une créature mythologique.
Le Minotaure, un taureau, mi-homme, mi-taureau.
Le centaure.
Il me semble qu'elle est mi-taureau, mi-humain.
Ah, le cerbère. C'est un chien avec trois têtes.
Un sphinx.
Un gros chat.
Le kraken, c'est une pieuvre géante, je crois.
Le cyclope, c'était un homme normal, sauf son œil au milieu du front.
Selon vous, quel est l'exploit le plus marquant de la mythologie?
Moi, je pense au labyrinthe où, de Minos, je crois, où ils avaient dû suivre le fil d'Ariane. Voilà, le labyrinthe de Dédale. Okay.
La guerre de Troie.
La bataille des Thermopyles.
Les 12 travaux d'Hercule, parce que 12, ça fait beaucoup.
Merci à toutes les personnes qui ont répondu à nos questions.
Mais ce n'est pas fini.
On vous a préparé une fiction sonore.
Radio Carmo !
Le piège des rats et d'Hadès.
Ah, mes enfants, quelle victoire éclatante ! Hadès n'aura jamais l'Olympe. Battant qu'Athéna, Hercule et Zeus veilleront.
C'était presque trop facile. Lui et ses pantins, pathétique.
Et ses ruses minables. Même son cerbère n'a pas osé se montrer.
Héra, vous l'avez vu dans cette bataille? Une statue aurait été plus utile.
Allons, ne soyez pas trop durs avec Héra. Elle a au moins respiré. Mais l'Olympe m'attend. Continuez la fête, enfant. Mais souvenez-vous, la vigilance est mère de la victoire.
Ces misérables osaient se moquer de moi. Ils oublieront ce qu'est la joie.
Seigneur Hadès, Héra demande audience.
Hadès, j'ai entendu leur moquerie. Ils rient de toi, mais surtout de moi. Alors nous partageons une humiliation charmante.
Ils me volent mes mérites. Sans moi, leur victoire n'aurait jamais eu lieu.
À croire que tu as mal choisi ton camp.
Assez! Je vais les voir tomber.
Que proposes-tu, ô reine bafouée?
Une forêt enchantée, qu'ils n'en ressortent jamais.
Seigneur, avec Héra à nos côtés, nous aurions la puissance pour lancer un tel sortilège.
Un piège donc? Ça tombe bien, je crois que Cerbère a besoin de faire une petite balade.
Wouf! 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 Mangez! Mangez! Allez!
Sérieusement, Hadès ne devrait plus se montrer pendant au moins 10 ans.
C'est un maître de l'échec. Rien de plus.
Au secours! À l'aide!
Héra!
Elle est en danger! Allons-y!
Ah! Athéna, Hercule! S'y prend à courir dans un piège.
Bienvenue dans ma forêt. Wahahaha.
Oh, puissant Hadès, les préparatifs sont terminés.
Bien, donne-moi le grimoire.
Ah oui, le grimoire.
Plus
vite ! Ah, le voici.
Que les racines s'élèvent, que la pierre les scelle, nul ne s'échappera. Et maintenant, Cerbère, à toi de jouer.
Wouf ! Wouf ! Wouf ! Chassez les intrus ! Chassez les intrus ! Chassez les intrus ! Wouf ! Des intrus !
Des intrus !
Des intrus !
Oh, c'est quoi ça ?
C'est le Cerbère ! Fuyons !
Wouf ! Wouf !
Wouf !
Croquez ! Croquez !
Croquez !
Il nous rattrape ! Oh non !
Ce mur ! Il est infranchissable !
Nous sommes perdus !
Là ! Cendron ! Hercule ! Lance-le !
Quoi ? Un bâton contre Cerbère ?
Lance le tronc contre le mur ! Maintenant !
Un bâton ! Un bâton ! Un bâton !
Aïe ! Aïe !
Il est assommé ?
Et voici notre sortie.
Encore une fois, c'est trop facile de déjouer les mauvais coups d'Hadès.
Oui, mais rappelle-moi de ne plus vexer Hera.
On ira s'excuser.
Il semblerait, ô puissant Hadès, que dans sa course, Cerbère démolit le mur.
Quoi ? Ô Cerbère terrassé par ces misérables, imbécile de bête, tu fais honte aux enfers.
Hadès ? Zeus ? Bah là, on prend une pulle Cerbère en laisse ?
La morale de cette histoire, c'est qu'il ne faut pas se moquer des autres.
Sinon, cela peut nous attirer des problèmes.
Pour finir cette première partie, on accueille Cindy Manon au monastère royal de Brou. Elle va nous parler d'une animation qu'elle a créée sur la mythologie.
Radio Carmo !
Bonjour, nous recevons Cindy Manon, responsable du pôle médiation du monastère royal de Brou.
Bonjour Cindy.
Pour commencer, pouvez-vous vous présenter ?
Oui, donc effectivement, je m'appelle Cindy Manon, je travaille depuis 4 ans au monastère de Brou et je conçois et j'organise les visites pour les scolaires. Alors ça va des tout petits à la crèche, à 2 ans, jusqu'au lycée.
Cindy, vous avez créé l'atelier Mythologie et Expression. Vous nous le présentez ?
Alors c'est un tout nouvel atelier qui se base sur plusieurs tableaux qui sont exposés au musée où on peut voir notamment Thésée, le Minotaure, Ariane, Callisto. Et à partir donc de ces histoires, j'ai rédigé des textes que les élèves, lorsqu'ils vont venir en visite, vont devoir lire et interpréter devant leurs camarades par petits groupes.
Comment les œuvres du musée servent-elles de support ou d'inspiration pour cet atelier ?
Eh bien, en fait, par exemple, pour Thésée et le Minotaure, je suis partie effectivement de ce qui est représenté sur le tableau, à savoir les Athéniens qui sont à l'entrée du labyrinthe et le Minotaure qui arrive juste derrière, pour pouvoir bien illustrer dans le texte ce passage. Donc, les œuvres du musée sont vraiment des illustrations des différents passages de l'histoire.
Décrivez-nous comment se déroule une séance type de cet atelier.
Alors, pour commencer, effectivement, je présente aux élèves les différents tableaux. Je leur demande ensuite de former des groupes d'à peu près 6 à 8 élèves et puis de choisir un tableau. À partir de là, en fait, je leur donne le texte, ils se l'approprient, ils le travaillent, ils mettent le ton, ils prennent le temps de respirer pour pouvoir effectivement lire l'histoire. Ils s'entraînent et à la fin de l'animation, on fait une restitution et chaque groupe peut présenter son tableau avec l'histoire effectivement qui se déroule.
Pourquoi avez-vous voulu travailler sur les mythes d'Ariane, Léda, Callisto et Danaé ?
Eh bien, parce que c'est ceux qui sont illustrés effectivement au musée. Il y en a effectivement plein d'autres. La mythologie grecque qui est très très riche, mais j'étais un peu limitée effectivement par les tableaux qui sont exposés au musée. Donc c'est pour ça qu'on a choisi ceux-là. C'est ceux qui sont dans le musée.
Pouvez-vous nous raconter l'histoire de ces mythes ?
Alors, je vais faire peut-être court pour pas prendre trop de temps, effectivement. On peut commencer par effectivement l'histoire de Thésée, qui est très connue, puisqu'il est livré avec les autres Athéniens en pâture au Minotaure, cette créature à moitié homme, à moitié taureau. Et c'est la princesse, effectivement, Ariane, qui va l'aider en lui donnant une bobine de fil pour qu'il puisse sortir du labyrinthe. Voilà, il y en a plein d'autres effectivement, mais je vais peut-être pas toutes les raconter pour garder un petit peu de suspense quand même.
Avez-vous une anecdote marquante à nous raconter en lien avec cet atelier ?
Alors, il est tout nouveau, effectivement. Ma première séance, ça va être demain, dans un collège avec une classe de 6e. Alors, je n'ai pas encore d'anecdotes. Par contre, ça va être plus moi pour l'écriture. Ça n'a pas toujours été évident parce que je voulais raconter plein de choses. Mais alors, ça aurait été beaucoup trop long pour les élèves. Donc, j'ai dû me faire un petit peu violence pour enlever des détails, enlever certains passages. Je vous raconterai peut-être une prochaine fois comment se passent ces ateliers. Voilà, j'ai une séance demain et j'en ai encore début janvier.
Comment faire pour participer à cet atelier ?
Alors, c'est un atelier effectivement plutôt à destination des scolaires, donc c'est plutôt les enseignants qui peuvent réserver auprès du monastère un créneau de visite. C'est plutôt un atelier qui s'adresse quand même au cycle 3, donc CM1, CM2, 6e. Voilà, parce que effectivement, le CP, CE1, ils sont encore un peu jeunes pour arriver à bien lire toute la totalité du texte. Mais effectivement, c'est plutôt en passant par l'école et par les enseignants pour pouvoir réserver.
Selon vous, pourquoi les mythes grecs continuent-ils de fasciner aujourd'hui ?
Parce qu'ils sont très très riches. On va retrouver toute une palette d'émotions. On va pouvoir retrouver des situations qui nous parlent encore aujourd'hui parce que finalement, c'est un petit peu ce qui arrive à tous les humains depuis des millénaires. Ça peut être la passion amoureuse, ça peut être effectivement la colère, ça peut être aussi... la recherche d'identité, donc encore aujourd'hui, en fait, ça nous parle. Et c'est des thèmes qui résonnent toujours beaucoup en nous. Donc, c'est pour ça qu'ils sont immortels, finalement. Ces histoires continuent à résonner avec ce qu'on vit aujourd'hui.
Qu'est-ce que ces mythes nous apprennent sur les valeurs des sociétés anciennes ?
L'honneur était vraiment très très important, la parole donnée aussi était très très important. On sent en fait que c'était quelque chose qui marquait beaucoup la destinée des héros, et puis il y avait une volonté aussi de se démarquer, de briller dans la société. Ce qu'on nous apprend aussi, c'est que parfois le rôle des femmes dans ces sociétés était un peu mis de côté, mais que quelques-unes arrivent à sortir un petit peu du cadre et à s'affirmer dans ce monde quand même très très masculin.
Quel lien faites-vous entre la mythologie antique et notre culture contemporaine ?
Eh bien, la mythologie, effectivement, antique, a façonné quand même notre culture. À partir de la Renaissance, on va redécouvrir toutes ces histoires. Et puis, à l'époque classique, on va vraiment les mettre en avant. Donc, encore aujourd'hui, dans nos histoires, eh bien, ça nous inspire. Et la preuve, c'est qu'on les retrouve quand même assez souvent dans les dessins animés, dans les films, encore aujourd'hui. Donc, il y a encore vraiment beaucoup, beaucoup de liens et ça façonne beaucoup notre imagination.
Quelle place occupe la mythologie dans les collections de monastères royaux de Brou ?
Alors, en fait, comme ce sont plutôt des tableaux 18e et 19e siècle, on en retrouve effectivement une petite dizaine de tableaux. Par rapport aux 400 exposés, je dois vous avouer que c'est une petite partie. Et puis, si on pense à tout ce qu'il y a en réserve aussi, ça reste une petite partie quand même. Mais c'est quand même très représentatif des collections 18e et 19e siècle aussi.
Quelle est votre créature mythologique préférée ?
C'est une très bonne question. J'ai un petit faible pour Pégase quand même, ça vient de mon enfance où je me rêvais sur un cheval volant. Je vais choisir Pégase effectivement.
Pouvez-vous nous le décrire ?
Ah ouais, bah alors c'est un beau cheval blanc avec des grandes ailes qui va emmener effectivement Persée vivre des aventures et notamment délivrer Andromède.
Selon vous, quel est l'exploit le plus marquant de la mythologie ?
Ça va être difficile de choisir quand même. Alors moi, j'ai des petites préférences quand même. Allez, parce que quand même, il est au monastère, on va dire, l'histoire de Thésée avec le Minotaure, sortir de ce labyrinthe grâce à l'aide du fil d'Ariane, et puis vaincre cette créature monstrueuse qui mange la chair humaine. C'était quand même pas rien. Mais il y en a plein d'autres quand même.
Merci beaucoup, Cindy.
Au revoir.
Au revoir.
Merci à Cindy Manon d'avoir répondu à nos questions. C'est Rose au micro,
accompagnée de
Anaëlle et de Lucille.
Pour la suite de notre émission, nous allons parler des serpents.
Ces animaux sont souvent présentés dans la mythologie.
On découvre tout de suite les plus connus.
Pouvez-vous nous citer un serpent présent dans la mythologie ?
Moi, je dirais le basilic. C'est une sorte de coq, un peu, avec des ailes de chauve-souris et une queue de serpent.
Alors, c'est pas vraiment un serpent, mais je dirais la gorgone. C'est une dame, mais ses cheveux sont très spécifiques, car ce sont des serpents. Elle a plein de serpents à la place des cheveux.
Bah, je pense que ça vient déjà de l'histoire d'Adam et Ève, hein, parce que c'est, on dit que c'est le tentateur et tout, donc je pense que c'est, ça part de là, voilà.
La chimère, c'est normalement, il y a plusieurs têtes sur cette chimère. Il me semble que qu'on peut couper, généralement, mais elle repousse.
Il y a plein de légendes autour de ces créatures, mais les serpents ont souvent un mauvais rôle.
On s'est demandé pourquoi.
Selon vous, pourquoi les serpents ont mauvaise réputation ?
Ah, parce qu'ils font peur, notamment par leur caractère assez féroce avec leurs dents pointues.
Ils sont pas beaux.
Eh ben parce que c'est un animal qui est trop froid, très froid quand on le touche.
Parce qu'on en a peur, car parfois ils peuvent être dangereux ?
Parce qu'ils ont un venin qui peut vous tuer.
Parce que leur morsure fait très mal.
Parce que c'est des animaux qu'on connaît pas beaucoup. On ne sait pas comment ils peuvent réagir à notre présence et ils peuvent être très dangereux pour nous.
On continue cette émission avec un quiz. Prêt à tester vos connaissances sur les serpents ?
Vous allez voir, ces animaux sont surprenants.
Bienvenue dans notre quiz sur les serpents.
Nous commençons avec Nmama qui a deux questions à nous poser.
Parmi ces quatre serpents, lequel est un corps aplati ? Réponse A, le boa. Réponse B, la vipère. Réponse C, le serpent liane. Réponse D, le serpent fuisseur. C'est la réponse B, la vipère. Les serpents ont adapté la forme de leur corps à leur environnement. La vipère a un corps court et trapu pour pouvoir facilement se cacher dans la végétation, des crevasses ou de terriers d'animaux. Le boa et quant à lui, long et arrondi. Le serpent liane, long et mince. Et le serpent fuisseur, court et mince.
Bravo Nmama, tu as une deuxième question.
Parmi ces cinq manières d'avancer, lequel n'a pas été utilisé par les serpents ? Réponse A, le serpentement. Réponse B, le mouvement diagonal. Réponse C, le mouvement en accordéon. Réponse D, la roue. Réponse E, en chenille, c'est-à-dire en ligne droite. C'est la réponse D, la roue. Aucun serpent ne se déplace en faisant la roue. C'est un comportement très rare observé chez seulement quelques espèces, uniquement pour échapper à un prédateur.
Bravo Nmama pour ces questions.
Merci, c'est à votre tour, Rose et Lucille, de nous poser vos questions.
Voici notre première question. Selon vous, combien de vertèbres ont les serpents ? Réponse A, entre 10 à 30. Réponse B, entre 200 à 400. Réponse C, entre 1000 à 4000. Réponse D, ils n'en ont pas.
C'est la réponse B. Les serpents ont entre 200 et 400 vertèbres. Cela leur permet d'avoir une incroyable flexibilité. Chaque vertèbre est reliée à une paire de côtes, ce qui leur donne une grande mobilité et les aide à se déplacer sans pattes. Le nombre de vertèbres varie selon les espèces. Certains serpents plus longs peuvent en avoir jusqu'à 600.
Deuxième question. Vrai ou faux, les serpents ne ferment jamais les yeux?
C'est vrai. Contrairement à la plupart des animaux, les serpents ne ferment jamais les yeux car ils n'ont pas de paupières. À la place, leurs yeux sont protégés par une écaille transparente appelée lunette. Cela les aide à garder leurs yeux humides et protégés même lorsqu'ils dorment.
Dernière question. À l'heure actuelle, quel est le plus long serpent? Réponse A, le python réticulé. Réponse B, l'anaconda vert. Réponse C, le boa constrictor. Réponse D, le serpent à sonnette.
C'est la réponse A, le python réticulé, ce serpent que l'on trouve surtout en Asie du Sud-Est, peut mesurer plus de 10 mètres de long pour 140 kg. Il détient le record du plus long serpent au monde. Les pitons sont des serpents constricteurs. Ça veut dire qu'ils tuent leur proie en les étouffant plutôt qu'en les mordant avec du venin.
L'anaconda vert n'est pas très loin avec ses 200 kg et 8,5 mètres de long.
En comparaison, le boa constrictor ne fait que 4 mètres et le serpent à sonnette moins d'un mètre.
Merci Rose et Lucille pour ces informations.
C'est la fin de notre quiz sur le serpent.
On espère qu'il vous a plu.
Notre émission aussi touche à sa fin.
Merci de nous avoir écoutés.
Passez une bonne fête sur Radio B.
Au revoir.
La mythologie et les serpents
sur Radio B.